Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Cette semaine, nous célébrons les esprits rebelles sur France Culture et au programme de ce réveil culturel, plein feu sur une exposition de design qui mérite le détour à Bordeaux, surtout si vous n'habitez pas cette ville. Une expo rétrospective qui a lieu en ce moment dans un joli petit musée qui fut autrefois une prison. Et donc jusqu'au 5 janvier, on peut voir des meubles art déco pré-pop art dans un déluge de couleurs et de lumières. C'est le meilleur des audaces esthétiques des années 80. L'esprit rebelle qui veut que des meubles ne servent pas seulement de meubles, des meubles qui brillent et qui s'y distinguent avant tout, tout sauf classique, tout sauf bourgeois, ça peut être ça la philosophie de la Memphis. C'était les années 80. Le musée des arts décoratifs et du design, le MAD Bordeaux, y accueille donc l'exposition Memphis Plastic Field. Memphis est le nom de ce mouvement fondé par le designer et architecte italien Ettore Sottsass, en 1981, qui par sa radicalité a marqué, au-delà d'ailleurs des meubles révolutionnaires confectionnés, toute l'esthétique des années 80. Constance Rubini, la directrice du musée et la co-commissaire de l'exposition, est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Bonjour Constance Rubini.
Bonjour Toufik.
Un fauteuil en plastique vert scintillant en forme d'auto-tamponneuse, oui. Une immense bibliothèque en forme de totem multicolore, un buffet qui ressemble à un martien, des luminaires
et des vases
qui sont vraiment art déco flashy, ça brille de toutes les couleurs, de plein de lumières. C'était ça le Memphis, la Memphis, c'était exciter les désirs avant de répondre aux besoins.
Vous pouvez pas mieux dire. C'était vraiment ça.
La beauté de l'objet avant sa fonction.
En tout cas, avec la fonction. C'est-à-dire que jusqu'avant Memphis, le design ne se préoccupait que des besoins. Il ne visait qu'à répondre aux besoins et à l'usage. Et puis tout d'un coup, avec Memphis, avec Ettore Sottsass, il va répondre aux désirs. Le design, tout d'un coup, est là pour répondre au désir ou en tout cas créer du désir. Et donc plutôt que de uniquement se concentrer sur la forme et la fonction et la rationalité des objets, eh ben c'est une explosion de couleurs, c'est une communication visuelle, la communication visuelle avant tout, l'émotion, le rapport à l'homme, le rapport à l'autre.
Alors qu'appelez-vous par la communication visuelle? Parce qu'effectivement dans les années 80, on ne parlait que de ça, de la com.
La com, mais ouais, la com, oui. C'était quand même une belle intuition parce qu'aujourd'hui, ouais. la communication visuelle et les images ont envahi quand même vraiment notre quotidien.
Pour le meilleur et pour le pire.
C'est des objets, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Ce sont des objets, en fait, qui fabriquent des images. C'est-à-dire qu'elles sont tellement colorées, tellement ornées, il y a tellement de motifs que ça fabrique des images très gaies, très, presque parfois enfantines, narratives en tout cas. C'est des objets qui racontent des histoires.
Alors, puisqu'on célèbre cette semaine les esprits rebelles, est-ce qu'on peut dire que avec Memphis, c'est le design révolutionné par un collectif d'esprits rebelles?
C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je pense que voilà, en Italie, il y avait depuis dans les années 70 des tas de designers qui travaillaient entre eux, qui participaient à des mouvements radicaux où cette chose-là était en train de naître. Mais avec Memphis, tout d'un coup, ça prend une dimension d'abord internationale et puis grâce à la série, en fait, parce que tout de suite, ils s'associent avec des industriels pour fabriquer en série. Et donc, il y a une diffusion mondiale. Et donc, ça prend une ampleur. L'esprit rebelle, tout d'un coup, s'internationalise. Alors, italien, parce que tout ça se passe à Milan, au départ.
Mais s'il fallait définir cet esprit rebelle, est-ce que je pourrais dire, Constance Rubini, que c'est l'impertinence artistique contre le classicisme bourgeois?
Oui, je crois que vraiment, pour Sottsass et pour tous ceux qui l'entouraient, il y avait une chose qui comptait, c'était de mettre à mal tous les codes bourgeois. Cette bourgeoisie très ennuyeuse et les codes du design aussi qui se parlaient un peu entre eux. Et tout ce qui l'intéressait, lui, c'était de regarder dans la rue, de se recommuniquer à une culture populaire, l'ornement, la couleur. Fini, en fait, cette histoire de le design, d'un certain design élitiste qui, du coup, était dans la sobriété. Mais tout ça avait une raison d'être. C'est-à-dire que ce design très sobre qu'on avait l'habitude de voir était aussi parce qu'il visait une certaine rationalité. Et donc, il fallait atteindre le standard pour être plus facilement adaptable à l'outil industriel. Ça, c'est ce que la modernité avait mis en place. C'est-à-dire que la forme devait suivre la fonction. Tout de suite, on devait savoir qu'un objet, à quoi servait l'objet, on devait le comprendre immédiatement. Et il devait être suffisamment simple dans ses formes pour pouvoir être fabriqué industriellement. Sottsass fait voler tous ces codes-là en éclats et tout d'un coup, il dit mais non, en fait. Ce qui est intéressant pour que les gens puissent fabriquer un lien personnel avec les objets, c'est que ces objets racontent une histoire, que ces objets véhiculent, d'abord recommencent à véhiculer des symboles, parce que de tout temps, les objets ou le mobilier étaient chargés de symboles. Le siège d'un empereur ou du chef d'une tribu n'avait rien à voir avec la petite simple chaise de la personne lambda. Ça a toujours existé, en fait. Donc, lui, il veut renouer avec tout ça, avec la charge symbolique des objets, émotive. En fait, la chose très intéressante qu'ils disent tous, donc lui et tous ces jeunes designers qu'il a fédérés autour de lui, c'est que jusqu'à présent, la fonction n'était définie que par rapport à l'usage. Mais qu'il faut redéfinir la fonction, se reposer la question de ce qu'est la fonction. Et avec beaucoup de poésie, il dit en fait, finalement, la fonction, c'est tout ce qui existe entre l'objet et la personne, donc c'est la vie.
Dès la première collection, la Memphis va connaître un succès fulgurant.
Oui, absolument fulgurant. 2500 personnes qui font la queue devant la galerie, c'est très amusant parce que...
C'est à Milan, bien sûr.
Les gens à qui on parle aujourd'hui, les designers ou même ceux qui étaient à Milan à ce moment-là, on dit mais ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. Bah ouais. Et alors on discutait avec Martine Bedin, qui est donc une des designers qui a fait la Memphis et qui était dans l'exposition et qui, voilà, le jour du vernissage. Elle disait c'était très drôle en fait, parce qu'on arrivait dans notre petite voiture, on était quatre, on arrivait pour se rendre à notre vernissage. On sortait quand même des années en Italie.
Des années de plomb, hein.
Les bombes, enfin
les
attentats. Et on est arrivé, on a vu tout ce monde et on a cru qu'il y avait eu un attentat. Et on s'est dit, c'est pas possible, il y a eu un attentat. Et en fait, pas du tout. C'était la queue. Il y avait 2500 personnes qui faisaient la queue pour entrer dans cette petite exposition.
Mais il faut dire que tout le monde était alerté, hein. Les journalistes, Paris Match était sur place. D'ailleurs, Paris Match écrit en 1983, après Memphis, plus rien ne sera pareil dans l'histoire du design.
Exactement.
C'est une bonne définition.
C'est plutôt
parce que,
pas mal.
Bah oui, parce que ça marque une rupture, ce début des années 80. Mais quand je vous disais que tout le monde était au courant, c'est qu'il y avait aussi de la communication.
Énormément.
Oui.
Ouais. C'est-à-dire que ça a l'air comme ça quand on voit tous ces mobiliers. Et c'est une des rares fois en France, c'est pour ça aussi que l'expo est intéressante, c'est qu'on voit toutes ces pièces ensemble. Généralement, enfin, il y en a quelques-unes qu'on a vues, on en a vu d'autres dans des livres, sur des images. Mais là, on les voit toutes présentes autour de nous. Et quand on voit ça, on se dit, mais vraiment, quelle bande de... Ils sont bien amusés, quoi. Ils ont vraiment bien rigolé. C'est sûr qu'ils ont libéré tout ce qu'ils avaient envie de libérer. Mais à côté de ça, il y avait une vraie stratégie, un travail de fou, parce que l'exposition, à partir du moment où ils décident de la faire, ils se mettent à travailler comme des dingues tous. Alors d'abord, Sotsas fédère autour de lui des designers très jeunes. Sotsas avait à peu près 50 ans. Hein. Il avait déjà une carrière derrière lui de à la fois designer industriel et puis personne donc qui avait participé au mouvement radicaux. Mais tous les jeunes, les gens qui fédèrent autour de lui ont une vingtaine d'années, pas plus. Et il y a des Italiens, mais pas que, évidemment. Et c'est là où ils visent l'internationalisme, c'est que il y a des Américains, il y a des Japonais, il y a des Espagnols, il y a des Français. Alors c'est pour ça aussi que c'est intéressant de montrer l'exposition à Bordeaux. C'est parce que dans le mouvement, il y avait deux femmes, seulement deux. Deux femmes, deux bordelaises. Les deux, et par hasard, parce qu'elles sont pas venues ensemble, mais elles se sont rencontrées, enfin elles se connaissaient, mais elles se sont retrouvées toutes les deux à faire partie de Memphis à Milan.
Alors quand je disais tout à l'heure que...
La communication.
Oui, la communication.
J'ai peut-être pas assez répondu, je me suis emballée sur autre chose.
Mais oui, mais on a affaire à des gens, à des communicants.
C'est ça, c'est-à-dire que voilà, des communicants d'abord, fortement, je pense que ça avait vraiment compris la force de la communication, et puis une stratégie. Donc voilà, il commence à réfléchir avec des graphistes, il y a des graphistes qui font partie du groupe, aux documents qu'ils vont produire, à la façon dont ils vont les communiquer, aux journalistes avec lesquels ils vont prendre contact, à comment ils vont diffuser le mobilier. Ils mettent en place une première collection, un catalogue, toutes les pièces sont photographiées et tout ça en un temps éclair.
Je parlais d'un succès fulgurant dès la première exposition le 18 septembre 1981 à Milan, mais on peut aussi dire que toute l'histoire de Memphis a été fulgurante, ne serait-ce que parce que ça a duré très peu de temps. En fait,
ouais,
c'est 7 ans, c'est ça, c'est de 81 à 88.
Exactement, c'est de 81 à 88, c'est-à-dire vraiment peu.
Ouais.
Et c'est fou de penser que 40 ans, on est quoi, 40 ans, 50, mm-hmm. 40 ans après, Memphis a cette espèce de présence énorme et très forte. Donc ça a duré très peu de temps, mais ça a été fulgurant. Et ça a, en revanche, ouvert un nombre de portes incroyables. Comme le disait Paris Match, les arts décoratifs et le design n'ont plus été les mêmes après. Mais ça va bien au-delà d'ailleurs, parce que je pense que Memphis a beaucoup influé dans des tas de domaines culturels, et notamment la mode. Il y a beaucoup de couturiers qui ont regardé Memphis, qui ont aimé Memphis. Le plus connu d'entre eux, c'est Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld avait meublé son appartement de Monaco entièrement en Memphis. Il avait presque toute la collection. Et voilà. Et
ça, c'est un coup de com ou c'est,
non,
c'est un coup de cœur?
Je suis sûre que c'est un coup de cœur. Je pense que Lagerfeld était un vrai collectionneur. Il achetait beaucoup de choses et il a adoré Memphis. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, Memphis avait cette diversité, cette complexité qui l'intéressait. Je pense que Lagerfeld était quelqu'un d'excessivement curieux. Et il a forcément, en effet, été en. Il a aimé l'esprit de Sotsas qui, lui, était plongé aussi dans plein de cultures différentes, mélangeait les choses, n'avait aucune barrière, était excessivement libre. Je pense que peut-être que Lagerfeld se retrouvait
quel
là-dedans.
Quel bon ambassadeur que Karl Lagerfeld. Et puis très peu de temps après, David Bowie.
David Bowie aussi, exactement. David Bowie a été un très grand collectionneur de Memphis. Mais vous connaissez tout déjà.
Ben on parle de design, on parle de cette collection, on parle des années 80, Constance Rubini. Et peut-être les gens se posent la question, mais pourquoi ce mouvement s'appelle Memphis ?
Memphis, en fait, c'est pour plusieurs raisons, parce qu'évidemment, avec Sotsas, tout était toujours complexe. Memphis, d'abord, c'est l'évocation du rock. C'est Memphis, Tennessee, c'est la chanson de Bob Dylan. J'ai plus les paroles du refrain en tant que, mais je crois que c'était « Stuck inside of mobile with this song again ». Enfin bon, toujours la même chanson qui se répète. Voilà.
Vous pensez bien qu'on l'a préparé, la chanson. Ouais.
Et qui évoque, en fait, la fin d'un monde, la fin d'un monde moderne. Mais c'est pas que ça. Donc c'est le rock qui, évidemment, à l'époque, est une culture, les jeunes qui écoutent du rock sont en rupture avec leurs parents, c'est la révolution le rock. Mais c'est aussi Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne. C'est là où, évidemment, Sotsas puise dans plein de références différentes. C'est complètement emblématique, le nom qu'ils ont choisi ne pouvait pas mieux coller avec l'esprit que les objets véhiculaient. All the rag men draw circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again.
Bob Dylan sur France Culture, l'esprit rebelle, l'esprit de Memphis. Donc c'est des créateurs, des designers, des architectes qui écoutent cette chanson. On est bien d'accord puisqu'on est avec vous, Constance Rubini. Vous êtes la directrice du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux qui propose donc jusqu'au 5 janvier cette exposition autour du mouvement Memphis. Ils écoutent cette chanson.
Ils sont tous ensemble, ils boivent un verre, ils écoutent cette chanson et puis tout d'un coup les choses se cristallisent.
Et Toré Sotsas, c'est un peu le vieux, il est entouré de jeunes créateurs.
Que de jeunes, voilà, une vingtaine d'années à peine.
Qui veulent bousculer vraiment tous les codes du design et même de l'architecture. Alors c'est qui Ettore Sotsas ?
Ettore Sotsas, c'est un personnage incroyable, avec une aura folle, c'est aussi pour ça qu'il arrive à fédérer tous ces jeunes autour de lui, mais c'était vraiment lui le moteur. C'est quelqu'un donc, qui avait une carrière de designer industriel, il avait notamment beaucoup travaillé avec Olivetti. C'est lui par exemple qui a designé cette fameuse machine à écrire portable rouge, alors qu'à l'époque les machines à écrire étaient des objets de bureau gris, beige, etc. Lui il la met dans une enveloppe rouge éclatante, et puis en plus elle est portable parce qu'elle est domestique, parce qu'elle nous accompagne, etc. etc. Donc il avait tout ce travail industriel à côté, et puis c'est quelqu'un aussi qui participait aux différents mouvements radicaux, notamment très ami d'Andrea Branzi, de Michele De Lucchi, de toute cette bande des architectes italiens qui sont en train de se dire qu'il faut reconstruire sur le monde.
Et ce qui se passe outre-Atlantique, parce qu'au même moment, Andy Warhol installe sa factory.
Ouais.
Ce sont deux mouvements parallèles ou ce sont deux mouvements qui se parlent, qui se connaissent ?
Non, je pense que ce sont deux mouvements parallèles, mais qui connaissent, en tout cas, oui, forcément, je pense que Sottsass connaissait bien sûr le Warhol et le Pop Art, mais il y a une interview intéressante de Izozatsky qui est justement publiée dans le catalogue qu'on a fait,
de l'exposition Mumphis,
oui, aux éditions Norma, qu'on a fait pour l'exposition. On est très contents de ce catalogue. Et dans cette, il lui pose la question justement des liens avec le Pop Art. Et Sottsass répond, mais en fait, le Pop Art extrayait des objets de la culture populaire et les agrandissait dans leur échelle et en faisait des œuvres d'art. Nous, on n'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris un objet tel quel pour le changer pour le glorifier. On a pris des tas d'éléments de plein de choses. En fait,
si on les compare, c'était plutôt le côté flashy, les couleurs vives.
Oui. Ouais. Ce qui intéressait ça, c'était l'hybridation. C'était d'associer plein d'éléments qui venaient d'univers culturel très différent, populaire mais aussi historique, de style du passé également, et sans se donner aucune barrière, aucune limite, donc librement, en faisant exactement ce qui lui plaisait.
Les rares critiques à l'époque disaient ou nous expliquaient que tous ces meubles là sont peut-être beaux à voir, mais ils vont avoir une vie plutôt limitée. Non, puisque vous avez pu en récupérer suffisamment pour faire une exposition.
Exactement, l'histoire leur a donné vraiment tort, parce que c'est assez rare dans l'histoire du design d'avoir un mouvement qui dure comme ça, dans la portée dure aussi longtemps, aussi forte. Et surtout, ce qui est très intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que Sottsass a pris soin que ces objets-là soient fabriqués industriellement, en tout cas en série. Et cette série ne s'est jamais arrêtée, cette fabrication ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire que M. Albrizzi, qui est aujourd'hui le directeur des éditions Mumphis, travaillait déjà dans l'entreprise Mumphis à l'origine et a pris la direction après. Et c'est toujours lui, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'ils ont lancé l'industrialisation, la fabrication en série de ces pièces, et elle ne s'est jamais arrêté depuis. C'est pratiquement unique dans l'histoire du design.
Alors, cette exposition autour de ce mouvement de designer Mumphis raconte à sa manière, du moins, que quand on visite l'expo, ça saute aux yeux. Elle résume quand même les années 80.
Bah oui.
C'est-à-dire le début de la com, bien sûr, puisqu'on voit comment ils vont s'associer avec Lagerfeld, même si vous nous dites là, ce matin, Constance Rubini, que Lagerfeld a eu un vrai coup de cœur pour le style Mumphis. Mais il va le faire savoir, il va le montrer, il va se photographier dans ses meubles. C'est une exposition qui résume aussi tous les grands tournants de cette époque, c'est-à-dire le pire et le meilleur des années 80. Pour le pire, c'est quand même l'esprit fric, l'esprit d'entreprise collective mais rentable, les années fric donc décomplexées qui commencent à s'installer, et en même temps c'est quand même toute une époque de création visionnaire, exaltante, allez, c'est en route vers le bonheur et la mondialisation heureuse.
Très très forte, c'est vraiment des années de créativité incroyable et qui bouscule. Je pense que les années 80 marquent un tournant très 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 marqué par rapport à ce qui s'est passé avant. Et dans tous les domaines. Parce que là, on parle de design, mais vous avez évoqué la mode aussi, la musique. On prépare actuellement là une exposition sur les sneakers qui va ouvrir au mois de mars. À partir des années 80, et peut-être que Mumphis et l'esprit Mumphis souffle aussi là-dessus, c'est que c'est plus du tout un problème de mettre une paire de baskets avec une jupe, ce qui était impensable avant. Donc tout est renouvelé, tout est... Les années 80, c'est la liberté, c'est la narration, c'est on se remet à raconter des histoires dans la peinture aussi. C'est vraiment la singularité, les personnalités des artistes qui s'expriment très fortement. Et dans le design, c'est d'autant plus marquant qu'il y avait le design était fait pour s'adapter justement à l'industrie. Et donc l'auteur disparaissait un peu derrière l'usage, derrière la fonction, derrière la machine industrielle. Et là, avec les années 80, c'est tous les créateurs qui reprennent en fait qui remontrent leur singularité. D'ailleurs, on parle de designer, mais on aime bien parler de créateur pour ces années-là, parce que la limite entre personnalité artistique et designer est... Ils sont des designers parce qu'ils produisent des meubles. Ils pensent, ils font des objets et des meubles. Mais ils sont très proches de la figure de l'artiste parce que c'est une créativité très très débridée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
fallait parler de quelques objets, de quelques créations au Memphis.
Alors, il y en a tellement. Il y a le ring, évidemment, parce que le ring, quand on rentre dans l'exposition, on voit tout de suite le ring d'Umeda, donc un des Japonais qui faisait partie du groupe, qui est cette pièce énorme qui, pour les designers de Memphis, pouvait servir à la fois d'endroit pour se retrouver, s'asseoir,
un comme canapé,
voilà, exactement, comme un canapé. Il y a cette photo, d'ailleurs, bien connue, où ils sont tous jetés et ils ont été photographiés dans le ring. Mais c'était aussi un endroit pour lire, où on pouvait se poser, lire, prendre une tasse de thé. Enfin, voilà, il était multifonction, un peu, cette espèce de...
Parce qu'à chaque fois, il y a une lampe.
Une lampe qui vient éclairer le cœur en fait de cet espace fermé qui est un espace presque non défini, simplement clos, et donc dans lequel on peut faire ce qu'on veut et se poser de la manière dont on veut.
Cette bibliothèque, je la veux, elle
la
coûte
Carlton.
Cher. Ben oui,
non, elle est
en
si
forme
cher.
De totem avec plein de couleurs et surtout déstructuré. Tout
c'est
est là.
C'est ça, c'est toujours cette question de la fonction qui est des codes fonctionnels, c'est-à-dire l'orthogonalité de toutes les bibliothèques jusqu'à présent, elle est un peu déplacée. Mais on met des livres à l'intérieur. Simplement, elle n'est pas faite que pour mettre des livres parce qu'elle évoque en effet le totem, elle raconte une histoire, elle est joyeuse, elle est presque enfantine. Donc, elle n'est pas que faite pour mettre des meubles, des livres. C'est vrai qu'il y a certaines étagères qui sont plus faciles que d'autres, mais comme elle tend ses bras vers l'extérieur, quand les étagères sont un peu en oblique, c'est un peu moins facile. Mais voilà, elle raconte, elle a une présence. En fait, c'est des meubles qui ont une énorme présence.
Je rappelle qu'on a un compte Instagram et une page Facebook. Donc si vous voulez une page de l'émission passant par franceculture.fr, si vous voulez avoir un aperçu des meubles Memphis, cette exposition, c'est une exposition que vous récupérez parce que cette rétrospective a eu lieu l'année dernière
à Venise,
en marge de la 16e édition de la Biennale d'architecture de Venise. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous avez changé pour la mettre dans cette petite prison devenue musée à Bordeaux?
Exactement. Qu'est-ce que ça change? Le lieu, en fait, avec le design, si vous voulez, c'est un petit peu différent d'une exposition de peinture. Une exposition de peinture, on l'amène d'un endroit à l'autre et puis c'est toujours sur des murs, on accroche les peintures sur des cimaises. Mais avec les objets sont en interaction vraiment avec l'espace. Donc c'est les mêmes scénographes mais elles ont recréé une scénographie quand même pour Bordeaux, puisque l'espace n'était pas le même. À Venise, c'était dans un palais magnifique, sur la lagune, c'était vraiment excessivement beau. Et puis là, c'était dans une prison. Mais c'est incroyable, parce que justement, les couleurs explosantes sont presque se démarquent sur les murs sobres de la prison de façon incroyable. Et l'histoire de la scénographie, en fait, ce que la scénographie raconte, c'est que dans les ruines de cette prison, parce que cette prison, elle a été en activité jusque dans les années 60, et puis après, elle a une histoire différente. Donc dans les ruines de cette prison, a poussé une jungle, donc c'est des plantes en plastique qui sont un petit peu près partout, mais qui sont colorées en noir pour que le vert ne soit pas en rivalité avec les beaux verts éclatants des objets. Et donc, au travers, on pousse comme ça les feuilles des plantes, et au travers de la jungle, on aperçoit les vestiges d'une civilisation très étrange, qui sont ces meubles qu'on arrive à rattacher à rien, parce qu'en fait, ils ne ressemblent à rien. Moi, une de mes pièces préférées dans l'exposition de Memphis, c'est cette table basse d'Ettore Sottsass, qui a un dessus en marbre. Donc le marbre, quel est le matériau le plus luxueux ou le plus honorable que le marbre, mais elle repose sur des pieds en plastique vert et en plus pailleté, du plastique vert pailleté. Donc qui avait l'idée d'associer du marbre et du plastique pailleté? Il faut vraiment être Sottsass, il faut vraiment appartenir à Memphis pour pouvoir faire ça. Et ça marche.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
On va terminer par David Bowie, of course. Pour Memphis. Est-ce que ça reste un esprit rebelle pour vous, l'esprit Memphis?
Oui, parce que la liberté, elle disparaît pas. Elle reste toujours, on la sent tellement, on peut tellement l'apercevoir quand on regarde le mobilier, quand on les voit même en photo. Vous verrez dans le livre, il y a des photos d'eux, c'est juste incroyable, ils se fichent de tout. Ils sont comme des bulldozers, ils font exactement ce qu'ils veulent faire. Donc oui, cet esprit rebelle, on continue à le sentir. Oui.
C'est au musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux jusqu'au 5 janvier. Donc c'est les derniers jours. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci à vous, Toufik.
working so well, duck and I sway.
Once in my life,
a shoot of the full moon.
Once in my life,
so what's my line? Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, ooh. Cause love is the answer. Love's talking to me. I'd scream and I'd fight for you. You're better than money.
Once in my life,
I'll shoot at the thing.